Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude. Qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but, une chose est sûre. Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses. Bonjour à tous, je suis heureux que vous soyez là. J'ai quelques réflexions provocantes à partager avec vous, des pensées qui, je l'espère, vous inciteront à considérer certaines choses sous un angle quelque peu différent. Les derniers enseignements portaient sur le livre des Philippiens. La dernière fois, nous avons examiné quelques versets qui ne sont pas souvent enseignés, du moins pas en ce qui me concerne. Je voudrais donc vous relire certains de ces versets et résumer ce que nous avons vu avant de passer à la suite. En effet, la suite prend tout son sens lorsque l'on comprend la première partie, et c'est généralement ainsi que les choses fonctionnent. Je tiens à vous dire que, où que vous soyez, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté en ce moment, vous n'êtes pas inconnu de Dieu. Il vous voit. Il voit votre cœur, il connaît vos luttes, il connaît vos hauts, il connaît vos bas. Le roi David a dit, « Tu discernes de loin ma pensée. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, ta main me conduira. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. » Mon ami, nous ne pouvons pas échapper à Dieu. Il nous voit, il nous connaît et il veut que vous le connaissiez. Il a de bonnes choses en réserve pour vous. Avant même la fondation du monde, Dieu vous connaissait, et il a prévu de bons chemins pour vous. Et non, ce n'est pas une coïncidence si vous m'écoutez en ce moment. Avant de lire ces versets, je voudrais vous parler d'un groupe de personnes dont je souhaite vous parler. J'en ai rencontré beaucoup au fil des ans. Elles ont eu une rencontre avec Dieu, mais elles ont été offensées en cours de route. Quelqu'un les a maltraitées, quelqu'un leur a fait du tort, ou les choses ne se sont pas déroulées comme elles le pensaient, et elles se sont mises en colère contre Dieu. Le livre des Proverbes dit que l'homme pervertit sa propre voie, mais c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Cela arrive souvent, je vous encourage vraiment à m'écouter. L'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens, dit ceci au chapitre 1, versets 9 et 10. « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. » Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Que votre amour augmente de plus en plus. Le Saint-Esprit a déversé l'amour de Dieu dans notre cœur, et Dieu veut que nous exprimions davantage notre amour. Il a dit, mais en connaissance et en pleine intelligence. Dans les limites imposées par une connaissance précise de la parole de Dieu, de la connaissance et du discernement. La connaissance vient de la parole de Dieu et le discernement vient du Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur. Il s'exprime par le don, il s'exprime par le pardon, en partageant de la grâce avec les gens et en étant bienveillant à leur égard. Mais cela ne signifie pas que nous devons aimer sans limite et sans cadre. Cela ne signifie pas que l'amour doit s'exprimer de toutes les manières, en toutes circonstances et envers tous. Il a dit, « Je prie pour que votre amour augmente dans les limites imposées par la connaissance et le discernement, de ce que la parole de Dieu a à dire et de ce que le Saint-Esprit vous dit. » Une rivière est une bénédiction, elle contient des poissons. Il y a de la vie, il y a de l'eau que les gens peuvent boire. L'eau nourrit les plantes qui poussent sur les rives. Il y a de la verdure et c'est fantastique. Mais si la rivière déborde de ses rives, si elle inonde, elle peut causer des catastrophes et des dommages. L'amour est une bénédiction à bien des égards lorsqu'il s'exprime à travers nous. Mais s'il n'a pas de limites, il est comme une inondation et peut causer des dégâts. Cela me fait penser à une dame qui est venue me voir un jour. Elle était en colère contre Dieu. Elle était furieuse. Elle allait cesser d'aller à l'église. Elle m'a dit, « Je ne comprends pas pourquoi Dieu a permis cela. » Elle m'a raconté qu'elle avait un fils adulte qui vivait avec elle. Il avait la trentaine. Il refusait de travailler. Il prenait de la drogue. Elle touchait une pension modeste. Elle arrivait à peine à payer son loyer, à se nourrir et à régler ses factures pour elle-même. Et à présent, elle avait un fils de 30 ans qui refusait de travailler et qui se droguait. Elle m'a dit, « Il me demande toujours de l'argent, et bien sûr, je lui en donne parce que je l'aime et que je ne peux pas lui dire non. C'est mon fils, mais il ne m'aide pas à payer le loyer, et maintenant ma facture d'électricité a doublé, ma facture d'eau a doublé, ma facture alimentaire a plus que doublé, je paie sa nourriture. Il me demande toujours de l'argent, je sais qu'il utilise une partie de cet argent pour acheter de la drogue et sortir faire la fête. Pourquoi Dieu me fait-il subir cela? Je suis tellement stressé, je ne peux pas remplir mes obligations et c'est très stressant. Pourquoi Dieu laisse-t-il cela m'arriver? » Je lui ai répondu, « Ce n'est pas Dieu qui laisse cela arriver. » C'est vous, et je sais que c'est votre fils. Chers parents, nous ne cessons jamais d'être parents. Même si nos enfants grandissent, notre cœur est toujours avec eux. Mais voici l'une des limites de la connaissance et du discernement. Ici, celle de la connaissance. La Bible dit, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il refuse de travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Je lui ai partagé ce passage et je lui ai dit, « Si votre fils ne travaille pas, vous devriez le mettre à la porte. » Je ne peux pas faire ça. Eh bien, ne blâmez pas Dieu pour votre situation alors. Nous pourrions continuer à extrapoler à partir de cette situation ou d'une autre, et vous connaissez probablement des gens comme ça. Ils ont fait confiance à quelqu'un et c'était une expression d'amour de leur part. Mais ils ont fini par être blessés et trahis à cause de l'amour qu'ils ont exprimé. Et parfois, ils s'en prennent à Dieu. Ils deviennent amers et se sentent offensés, et cela finit par les tirer vers le bas. Paul dit que nous devons exprimer notre amour, mais que cela doit se faire dans les limites de la connaissance de la parole de Dieu et du discernement. Parfois, le Saint-Esprit dira, « Ton cœur a été droit, mais tu ne devrais pas faire cela. » David voulait construire un temple pour le Seigneur, et le prophète lui dit, « C'est bien que cela ait été dans ton cœur, David. C'est une chose noble. Cependant, ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est ton fils Salomon qui va construire le temple. » Ainsi, parfois, de bonnes choses viennent dans notre cœur. Nous voulons aider les gens, nous voulons exprimer notre amour en étant aimables et généreux. Nous devrions l'être, mais parfois le Saint-Esprit peut dire, « Non, tu ne vois pas la situation dans son ensemble. Il y a des choses que tu ne sais pas à propos de cette situation. » C'est pourquoi vous ressentez parfois une hésitation intérieure. Vous devez apprendre à l'écouter. Je dois apprendre à l'écouter. Nous devons avoir une histoire d'amour avec le livre de Dieu afin de ne pas nous retrouver en difficulté. Il a dit que l'amour de Dieu augmente de plus en plus et que vous puissiez discerner, cela signifie tester, ce qui est essentiel. Ce mot signifie être différent. Certaines traductions disent « afin que vous puissiez décider de ce qui est différent ». Pour que vous puissiez tester et discerner ce qui est essentiel, différent. Ainsi, vous serez pur, sincère et irréprochable. Pour le jour de Christ. Irréprochable signifie ne pas trébucher. Le fait est que si nous ne travaillons pas et n'exprimons pas l'amour de Dieu en nous dans ses limites, nous serons offensés. Nous trébucherons, nous finirons par devenir cyniques, nous finirons parfois par devenir amers ou par être en colère contre Dieu. Mais Dieu veut que nous soyons remplis d'autre chose. Il ne veut pas que nous soyons remplis de cynisme. Il ne veut pas que nous soyons remplis d'amertume. Il ne veut pas que nous soyons remplis de colère. Il veut que nous soyons remplis d'autre chose, comme il le dit dans le verset suivant, en Philippiens 1:11, « Remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Donc, tout d'abord, je dois être pur et irréprochable. Je dois être vide d'animosité, de colère et d'amertume. Je veux être vide de cela afin de pouvoir être rempli d'autre chose. Dieu veut que nous soyons remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Il n'a pas dit rempli de justice, mais rempli du fruit de justice. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez été rendu juste, mis en règle avec Dieu au moment de votre nouvelle naissance. Ce n'est pas quelque chose dans lequel nous grandissons. Nous ne grandissons pas dans la justice au sens où nous devenons plus justes aux yeux de Dieu. Jésus nous a rendus justes. Nous avons été rendus justes par sa justice. 2 Corinthiens 5, 21 dit de Jésus, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Par ailleurs, je vais vous lire un autre verset, Romains 5, 17. Car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, Adam, c'est par lui que la mort spirituelle s'est abattue sur l'humanité, à bien plus forte raison. J'aime ces mots. À bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qu'est le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul ? Mon ami, la justice, être en règle avec Dieu, est un don que nous recevons. Ce n'est pas quelque chose que nous gagnons ou dans lequel nous grandissons. Il n'a pas dit « soyez remplis de justice ». Au moment où vous avez accepté Christ, vous êtes devenu aussi juste devant Dieu que vous le serez jamais. Vous êtes purifié par le sang de Jésus et vous pouvez vous présenter devant Dieu sans sentiment de culpabilité ni d'infériorité. Bien sûr, nous venons humblement, sachant toujours qu'il est notre Père, mais qu'il est aussi le Créateur de l'univers. Il est Dieu Tout-Puissant. Nous avons un cœur droit et nous venons humblement. Mais je ne peux jamais être plus juste devant Dieu que je ne l'étais lorsque j'ai accepté Jésus, car le Saint-Esprit est venu en moi. Je suis né de nouveau et mon esprit a été rendu juste devant Dieu. Cependant, il a dit qu'il voulait que nous soyons remplis du fruit de justice. La seule façon dont la justice qui est dans notre cœur, qui fait partie de notre nature nouvelle, peut porter du fruit, c'est si elle s'exprime à travers nous, dans notre vie extérieure. C'est le fruit qui est le résultat de notre relation juste avec Dieu. Nous devons laisser cette nouvelle nature intérieure s'exprimer à travers notre mode de vie, ce qui apporte louange et gloire à Dieu, comme nous le lisons au verset 11. Le roi David a dit ceci au psaume 40:11. « Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. » Non, elle doit s'exprimer extérieurement. Si vous avez été réconcilié avec Dieu, vous devriez porter du fruit dans votre vie. Si j'ai été réconcilié avec Dieu, je devrais porter du fruit dans ma vie. Le résultat est que Dieu est glorifié et loué. J'aime la traduction de la Bible en anglais, The Message, qui dit « Lorsque nous sommes remplis des fruits de la justice, cela rend Jésus-Christ attrayant pour tous, amenant chacun à participer à la gloire et à la louange de Dieu. » Lorsque notre vie est remplie des fruits de la justice, cela rend Jésus-Christ attrayant pour tous. Un chrétien amer et offensé éloigne les gens de Dieu. Mais d'autre part, lorsque vous êtes rempli des fruits de la justice, cela est très attrayant. En fait, c'est divinement attrayant. Quels sont les fruits de la justice? Je vais vous lire quelques versets et vous renvoyer à certains versets. Ésaïe 32, 17 dit « L'œuvre de la justice, ce sera la paix, et le produit de son activité, ce sera la tranquillité et la sécurité pour toujours. » Ainsi, l'œuvre et le produit de la justice, ce que la justice produit, et encore une fois, la justice vient lorsque j'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur, je reçois le don de la justice. Selon Ésaïe, ce fruit est la paix, le calme ou la tranquillité, et la sécurité pour toujours. Tout le fruit de l'esprit mentionné en Galates 5 peut être considéré comme fruit de la justice. C'est le fruit de l'esprit qui a été rendu juste devant Dieu, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Toutes ces choses sont les fruits de la justice. C'est ce qu'une vie rendue juste devant Dieu devrait produire. Les fruits de la justice sont également mentionnés en Jacques 3, entre les versets 10 et 18, où il est écrit : être en paix avec les autres, être conciliant et doux, et être réellement un artisan de paix plutôt que d'être envieux ou de provoquer des conflits. Voilà les fruits de la justice. Selon 2 Corinthiens 9, 9 à 11, servir les pauvres et aider les gens est un fruit de la justice. Romains 6, 22 déclare que la sainteté est un fruit de la justice. Il s'agit de mener une vie sainte, d'être mis à part pour Dieu. Je pense que même gagner des âmes, conduire les gens à Christ, peut être considéré comme un fruit de la justice. Car en 2 Corinthiens 5, où il est question de notre réconciliation avec Dieu, Jésus-Christ devait être fait péché pour nous, afin que nous puissions être rendus justes en lui. Dans ces mêmes versets, il est écrit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ, que nous supplions au nom de Dieu d'être réconciliés avec Dieu à cause de l'œuvre que Christ a accomplie. C'est le fruit d'une vie rachetée. Nous partageons le message de l'Évangile et nous amenons les autres à Jésus-Christ. Je suis sûr que Paul pensait à ces fruits lorsqu'il a écrit aux Philippiens, et peut-être d'autres fruits encore, qu'ils soient remplis des fruits de la justice. Mais une question se pose. Comment ces fruits de la justice poussent-ils dans la vie d'un croyant? Comment se développent-ils? Que pouvez-vous faire et que puis-je faire en tant que croyant pour coopérer avec cette œuvre intérieure que le Saint-Esprit accomplit, qui est destinée à porter du fruit dans notre vie? La première chose que je veux partager avec vous, c'est qu'il faut être ouvert à la correction de Dieu. Je parie que vous ne vous y attendiez pas. Être ouvert à la correction de Dieu lorsqu'il nous parle directement par son esprit, à travers les autres ou à travers sa parole. Sa parole doit devenir l'autorité ultime dans notre vie. Et mon ami, tout ce que vous placez au-dessus de la parole de Dieu et de l'autorité que vous avez, qui est supérieure à la parole de Dieu, est une idole et doit être renversé. Même s'il s'agit de votre idéologie politique, si vous la placez au-dessus de la parole de Dieu, alors votre idéologie politique est devenue une idole. La parole de Dieu doit être l'autorité ultime sur toutes les questions de conscience dans notre vie. Dieu nous corrigera en nous apportant sa parole par la prédication et par l'interaction avec d'autres personnes. Son esprit murmurera à notre cœur. En outre, j'aimerais vous lire un passage en Hébreux 12, 9 à 11. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Ce n'est pas agréable d'être corrigé, mais après coup, si nous écoutons la correction, si nous nous ajustons, si nous changeons et si nous nous soumettons à la sagesse et à la voix de Dieu, cela produira, cela donnera un fruit porteur de paix, la justice. La correction est très importante, mais certaines personnes, si vous essayez de les corriger, elles se gonflent comme un vieux crapaud et disent « Vous ne pouvez rien m'apprendre ». Et elles s'offusquent. Je me souviens quand j'étais un jeune croyant, je vivais dans l'État de l'Oregon, et il y avait un endroit appelé Rogue River, dans la vallée de Rogue River. La Rogue River traversait ce lieu et j'allais souvent pêcher à un certain endroit. J'avais rencontré un autre jeune croyant qui fréquentait une autre église de la région. Il ne fréquentait pas mon église, mais je l'avais rencontré et je le connaissais. Lui et sa petite amie vivaient dans une petite maison vraiment sympa, très petite, très pittoresque, mais vraiment sympa, juste au bord de la rivière. C'était un endroit très agréable. Ils vivaient comme s'ils étaient mariés, mais ils ne l'étaient pas. Je pense qu'elle a été sauvée d'abord, puis il a été sauvé aussi, et ils sont allés à l'église. J'ai beaucoup aimé la façon dont les frères de l'église ont réagi. Ils les ont accueillis, ils leur ont montré de l'amour, et ils les ont acceptés. Ils venaient depuis un certain temps et ils ont développé une amitié avec eux. La Bible dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité ». Si vous êtes mon ami, vous pouvez me blesser autant que vous voulez, car je sais que vous souhaitez mon bien. Certaines personnes ne veulent pas créer des amitiés, ne veulent pas construire de ponts relationnels. Elles veulent juste corriger. Mais ils ont pris le temps de faire savoir à ce couple qu'ils les aimaient. Ensuite, ils sont allés les voir en privé, pas en public. Quelques frères de l'église ont été les voir et leur ont dit « Nous savons que vous avez rencontré Christ. Nous sommes très heureux que vous veniez à l'église. Mais écoutez, voici ce que dit la parole de Dieu. » Ils ont parlé des Écritures qui traitent des relations sexuelles hors mariage et ont évoqué le caractère sacré du mariage. Ils se sont appuyés sur la parole de Dieu et l'ont fait avec un profond amour. Ils ont dit, « Si vous voulez suivre la voie de Dieu, vous devez vous marier ou vous séparer. » Je sais que la fille voulait se marier, mais la première réaction du garçon a été de se fâcher. Il était en colère qu'ils soient venus chez lui et qu'ils osaient lui parler ainsi. Bref, ils ont suivi leur chemin. Ce fut un moment un peu difficile, mais ce garçon est revenu à l'église. J'étais là quand certaines de ces choses se sont produites. Ils ont commencé à revenir à l'église. Puis, lors d'une autre réunion, lui et sa petite amie étaient présents, et je me souviens l'avoir entendu parler. Il était en colère au début, mais il a dit, « Ils ont raison. C'est ce que dit la Bible, et nous allons nous marier. » Je vais l'épouser, nous n'allons pas vivre ensemble, nous allons nous abstenir de tout contact sexuel jusqu'à notre mariage. Nous allons faire les choses à la manière de Dieu. Ils étaient ouverts à la correction de Dieu. Mon ami, lorsque vous vous soumettez à la correction de Dieu, cela produit dans votre vie un fruit porteur de paix, la justice. Cela pourrait être une multitude de choses. Un homme a raconté qu'un jour, lui et ses amis étaient allés parler à un frère, un de leurs amis, qui traitait sa femme très durement. C'était un frère de l'église et ils faisaient de la voile ensemble. C'était leur passe-temps favori. Ils aimaient sortir en mer avec leur petit voilier, ils étaient passionnés de voile et étaient membres d'un yacht club. C'était leur passion. Ils ont donc pris ce type à part car les couples avaient tous dîné ensemble. Ils lui ont dit, « Frère, nous voulons te parler. La façon dont tu parles à ta femme devant les autres n'est pas correcte. Tu la traites durement, tu la méprises, tu la traites comme une inférieure, et ce n'est pas la voie de Dieu. Vous êtes tous deux héritiers de la grâce de la vie. » La Bible dit que les maris doivent traiter leurs femmes comme Christ traite l'Église. Au sein du mariage, le mari a en réalité un rôle plus important que la femme, car Christ est parfait. Le rôle de la femme est comparable à celui de l'Église, et le rôle du mari est comparable à celui de Christ. Christ est toujours parfait dans ses relations avec l'Église. Nous ne devons pas être parfaits, mais nous devons faire de notre mieux. Jésus a toujours du temps pour tous les membres de l'Église. Il est toujours là quand nous prions. Il ne nous jette pas nos échecs passés au visage, il ne se met pas en colère et il ne feint pas de nous ignorer. Mais c'est exactement ce que faisait cet homme. Tout à son honneur, il a dit, « Mes frères, merci. » Il leur a dit, « Je sais que Dieu est déjà en train de travailler dans mon cœur et je vous remercie. J'accepte cette correction. » Il a commencé à traiter sa femme différemment. Un foyer heureux, femme heureuse, vie heureuse. Sachez que Dieu n'en a pas fini avec vous. Si vous vous êtes senti offensé, peut-être avez-vous été lésé, peut-être avez-vous été trahi, peut-être avez-vous essayé de faire ce qui était juste, peut-être avez-vous essayé d'aimer, et avez-vous fini par être puni pour cela? Ne vous en offensez pas, que cela ne vous fasse pas trébucher. Ne laissez pas l'amertume ou le cynisme entrer dans votre vie. Si c'est le cas, demandez à Dieu de vous aider à vous en débarrasser. Vous devez pardonner à ceux qui vous ont fait du tort et les aimer comme Christ vous a aimé. La confiance se mérite et le pardon est un cadeau que nous offrons. efforcez-vous de laisser les fruits d'une relation juste avec Dieu commencer à se manifester dans votre vie. La première façon d'y parvenir est de vous soumettre à la correction de Dieu. Je voudrais clore en vous disant quelque chose. Dieu, dans les cieux, vous voit en ce moment même. Il sait que vous avez pris le temps de m'écouter. Quelle que soit la langue dans laquelle vous écoutez, cette émission a été traduite en plusieurs langues à travers le monde. Dieu vous voit personnellement, il vous voit individuellement et il vous aime. Vous êtes précieux à ses yeux, n'en doutez jamais. Ouvrez votre cœur à son Fils Jésus-Christ, cela changera tout dans votre vie. Que Dieu vous comble toujours de ses richesses et de ses bienfaits.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.